des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour mes amis, ravis de vous retrouver à cette émission des livres plein les oreilles qui porte ce nom parce que bien évidemment nous ne parlons, et vous le savez maintenant, que de livres audio. Aujourd'hui c'est sa première visite à l'émission et vous m'en voyez absolument ravie. C'est une femme qui a l'écriture dans la peau, India Desjardins est avec nous. On évoquera La mort d'une princesse, un livre qui a été lu et qui se retrouve au SQLA, et Une histoire de cancer qui finit bien, lu par Sarah-Jeanne Labrosse, sortie en audio sur le site gratuit de Radio-Canada. Et puis, il y a quelques jours, un livre très attendu est sorti presque simultanément sur papier et en audio. Il s'agit du tome 2 de la série Histoire de femmes de Louise Tremblay Desciambre. Et lorsque le livre est sorti, j'en ai profité pour faire une brève entrevue que je vais vous faire entendre également à l'émission. Caroline Chouinard écrit pour les jeunes et nous présente Jeux dangereux à Québec, produit par Vues et Voix. Et enfin, on va retrouver Hélène Gauthier qui nous revient d'un grand voyage et qui nous offre quelques nouveautés disponibles au Service québécois du livre adapté. Mais d'abord, pour mettre la table en quelque sorte à India Desjardins et notamment à ce livre qui s'intitule La mort d'une princesse, voici une chanson d'Éric Lapointe que je ne connaissais pas et que je trouve, ma foi, fort belle.
La rage au corps, la mort au cœur. Je te veux encore, j'en vis et j'en meurs. Tu me jettes puis tu me prends. Mais là, c'est une fois de trop. Veux-tu boire tout mon sang, me ronger jusqu'aux os? De l'amour, j'en veux plus. Je m'avoue vaincu. L'amour, j'en peux plus. C'est beau, rien que dans les vues. J'suis monté si haut que j'suis jamais redescendu. Mort encore à ta peau, comme aux fruits défendus. De l'amour, j'en veux plus. Je m'avoue vaincu. T'as eu ce que t'as voulu. Cette fois, je reviendrai plus. Si tu me trouves étendu un matin sur le plancher, ou si tu me trouves pendu dans ta chambre à coucher, appelle pas l'ambulance ni la police, mais berce-moi en silence que je m'assoupe. Suis tellement saoulé, mais
Ça aurait pu s'appeler le Magnolia, ce livre que j'ai entre les mains, mais ça s'appelle La mort d'une princesse.
Ça existait déjà!
Oui, parce que sinon, India Desjardins, oui, vous l'auriez appelé,
oui,
le Magnolia.
Oui, vraiment.
J'en étais sûre et certaine. D'ailleurs, ce sont des pages qui sont consacrées au Magnolia, qu'on retrouve au début et à la fin, ouais, du livre, qui sont magnifiques, hein, cet arbre qu'on plante. Et d'ailleurs, vous le précisez à un moment donné, c'est un arbre qui n'est pas fragile, donc il nous fait des fleurs absolument magnifiques, ouais, au printemps, quoi qu'il arrive.
Ouais. Puis après ça, tu l'oublies. Il se perd dans le décor. Tu ne sais plus que c'est un Magnolia. Tu sais juste au printemps. Ouais. Puis dans l'histoire, en fait, elle voit un magnolia mourir, puis elle l'a vu fleurir, puis là, elle voit qu'il n'existera même plus. Puis pour moi, c'est une métaphore d'un amour qui se termine, d'un amour que ça a déjà été magnifique, les gens le prenaient en photo, tout ça. Puis à un moment donné, c'est comme si la colère, toutes les émotions de ces deux personnes-là, leur chicane, tout ça, avait été abreuvé par les racines, puis que l'arbre n'en avait pas survécu.
Celle qui aurait peut-être permis au Magnolia de continuer à fleurir si elle avait vécu l'amour au lieu de le rêver.
Ça, pour moi, la première phrase du livre, c'est « J'ai rêvé de l'amour plus que je l'ai vécu, ouais ». Pour moi, c'est important de commencer commencer le livre comme ça, parce que souvent, je trouve qu'on s'illusionne de l'amour. Puis moi, ça représentait bien comment j'avais abordé l'amour avant. Puis quel cheminement j'ai fait après ça pour essayer de vivre l'amour plus dans, au lieu de d'une façon comme dans les films, comme tu sais, dans la chanson d'Éric Lapointe, là, il veut un amour qui est bien trop intense, tu sais, puis que si ça se finit, il menace de se pendre dans une chambre à coucher. Voyons donc, tu sais. Puis si c'est plus ça, ben c'est comme il croit plus, puis tout ça, alors que moi, j'ai découvert à travers mon cheminement que l'amour, ça pouvait être beau, ça pouvait être doux. C'était pas obligé de faire mal.
D'ailleurs, comme avec celui qui arrive un petit peu plus loin dans le livre, j'en dirai pas trop, mais le Pascal.
Oui.
Où là, d'ailleurs, ça donne lieu. Attends, là, la scène des poils, j'ai trouvé ça tellement drôle. Ça, c'est l'une des premières... en fait, ça, c'est la scène entre Charlotte et Eric, hein, qui est la scène d'un film, mais qui pourrait très bien être, évidemment, entre Sarah et Pascal.
En fait, c'est ça. C'est parce qu'elle a vu une date, puis elle se voit faire, puis elle a, voyons, c'est comme les films que je voulais plus écouter et tout ça, puis c'est pour ça que je l'ai écrit en scénario. Parce que c'est comme ça, elle se regarde en se jugeant.
Oui.
En jugeant que, hey, ce que je suis en train de vivre là, c'est tout ce que je jugeais qu'éteigne chez les autres.
Exactement. Alors, la scène, là, c'est que, imaginez un homme, une femme, on est dans un parc, c'est bien romantique, puis les arbres, puis tout ça. Puis, ah là, puis les enfants qui doivent jouer avec des petits bateaux à moteur sur le lac. Puis, à un moment donné, elle lui dit, bon, écoute, je voulais juste te dire, ils n'ont pas encore couché ensemble, que la mode de l'épilation, ça m'écœure en ce moment, je ne la suis pas. Et là, le gars, il fait, hein? Et là, elle dit... Parce que ça fait longtemps que j'ai pas... Bon, en tout cas, été avec quelqu'un. Puis l'autre jour, j'entendais des gars parler ensemble. Il y en a un qui trouvait que l'épilation d'une fille qu'il avait connue était affreuse, qui préférait l'épilation intégrale. Ça m'a tellement fâchée. Fait que je voulais juste te dire que si jamais t'es du genre à avoir des attentes, moi, dans la vie, je fais ce qui me tente, puis ça me tente pas de changer pour quelqu'un. Donc, ça, c'est comme ce qu'on appelle le coup du cric. Connaissez-vous le coup
non.
du cric? Ben, c'est la personne qui crève en plein hiver, il neige, puis là, elle va pour essayer, voilà. Et là, écoute, il faut qu'elle démonte la voiture pour trouver le cric, et elle trouve pas le cric, et là, il faut qu'elle marche 5 km. Et là, elle est en colère, et plus elle avance, et là, finalement, elle arrive devant une porte, elle voit de la lumière, elle frappe à la porte, personne s'ouvre. Ton cri que peut le... oui. Bon, et ben c'est un petit peu ça, finalement.
Oui, oui.
Parce qu'elle est intense, même si vous, en tant qu'India Desjardins, vous nous dites, India, que c'est pas vrai que l'amour, c'est comme dans les films, et que ça, parce que c'est pas tout rose, hein, c'est aussi tout ce qui va avec le corps humain. Mais Sarah... Et pas Sarah, surtout pas Sarah. Sarah, elle est intense aussi.
Mais je pense que quand on a été blessé,
oui, on l'est.
On aborde l'amour un peu en guerrière. Puis c'est un peu comme ça que je l'ai dedans, mais on est comme les poings levés. Puis ah ouais, qu'est-ce que tu vas me faire là? Qu'est-ce que tu vas me faire? Puis tu sais, moi je pense que ça m'est déjà arrivé de dire. Hey là, wow là, si tu demandes ça de moi, je donne pas ça. Mais personne m'avait encore rien demandé, tu sais. Puis, tu sais, c'est arrivé quand j'ai rencontré mon chum, qui est une personne vraiment extraordinaire. Puis, que des fois, je disais, hey là, si toi, tu t'attends ça, là, moi, ça sera pas comme ça, tu sais. Puis, il était là, non, j'attends pas ça.
Et vous étiez vous-même, hein, une célibataire endurcie.
J'étais une célibataire endurcie qui avait été très blessée.
C'est ça.
Donc, lui, il a été, je trouve qu'il a été très patient avec moi. Puis oui, moi, même si c'est pas notre histoire et c'est pas mon histoire, parce que moi, je suis vraiment une fan de fiction, mais j'ai quand même exploré des sentiments que j'ai vécus, des réflexions, un cheminement. Puis oui, tu sais, il y a des affaires que j'ai vécues avec mon chum qui m'ont un peu inspirée pour le personnage de Pascal, qui n'est pas nécessairement l'amoureux des comédies romantiques, justement. Tu sais, il est un peu... Normalement, il est un peu il serait peut-être le gars que la fille allait au début, mais moi, j'ai voulu changer ça pour justement plus le gars avec qui on veut finir, qui est le gars gentil, qui nous respecte tel qu'on est.
Alors, on aura compris ici qu'il est question d'une rupture.
Ouais.
Donc, on suit l'héroïne avant,
ouais,
pendant fait, la rupture.
C'est l'histoire d'une fille qui vit une rupture à 31 ans, l'âge où... l'horloge biologique sonne. Donc, ça met non seulement la pression de rencontrer quelqu'un, mais aussi la pression que si j'ai 31 ans, puis que là, je suis en peine d'amour d'une relation de 7 ans, combien de temps je vais avoir de la peine? Combien de temps ça va me prendre à rencontrer quelqu'un? Puis là, ben, mon horloge biologique sonne, puis peut-être qu'il va être trop tard. Et donc, elle, à la fin de la première partie du livre, elle décide... Écoute, là, moi, je vais m'enlever cette pression-là. Puis elle décide de se consacrer à sa carrière. Et on la retrouve 7 ans plus tard. Et c'est là, pour moi, que le roman commence pour de vrai. Mais on la retrouve avec un cheminement de peut-être essayer d'ouvrir la porte à nouveau. Puis
la vie,
faire
quoi.
La paix avec son passé.
Surtout. La vie, oui, la vie. Exactement. Parce qu'on réagit tous comme ça.
Oui.
Hein, de façon... Alors, je vous le dis, c'est pas un livre triste, hein.
Non.
Pas du tout. Il y a un humour. J'adore votre humour.
Merci.
J'aime vraiment... Attendez, un petit exemple d'humour que j'aime beaucoup. Attendez que je retrouve la phrase. Ah oui, au sujet des filles, comme je ne retrouve pas la phrase, puis qu'on va manquer de temps. Ah voilà, certaines filles enfilent des talons hauts en disant « Oh, c'est comme des pantoufles ». Et je me demande, écrivez-vous, India Desjardins, quelle est leur expérience générale en termes de pantoufles? Non, j'adore vraiment votre humour.
Merci.
On va passer tout de suite, parce que déjà le temps file. Alors, complètement vers autre chose.
Oui.
Cette histoire de cancer qui finit bien, lue par Sarah-Jeanne Labrosse.
Oui.
Donc, ça se retrouve en livre audio sur le site de Radio-Canada.
Mm-hmm.
Malheureusement, Sarah-Jeanne ne pouvait pas être là. Mm-hmm. Elle n'était pas disponible. Sinon, elle serait venue. Parlez-nous. Moi, je l'ai écoutée en quelques mots. Là aussi, on part au départ d'une histoire qui n'est pas gaie, mais qui finit bien.
Oui, oui, oui.
Même si c'est le cancer, on suit cette jeune femme de l'hôpital jusqu'à... le retour à la maison et cette jeune femme qui se souvient de tout ce qui s'est passé pendant tous ces traitements,
ouais.
Alors qu'elle retourne voir le médecin pour savoir ce qu'on va lui dire.
Oui, c'est ça. C'est une petite fille, elle avait 11 ans. Je l'avais rencontrée dans une bibliothèque.
Ouais.
On m'avait demandé de la rencontrer avant ma conférence parce qu'elle était en traitement pour une leucémie. Et puis, vu qu'elle était trop faible pour assister à ma conférence, on m'avait demandé de passer un petit 15 minutes avec elle. Donc, on avait discuté, elle et moi, de toutes sortes de choses. Puis là, à un moment donné, elle m'avait dit qu'elle trouvait que toutes les histoires de cancer finissaient mal. Puis elle avait envie de se reconnaître dans une histoire qui lui ressemble, mais elle avait envie que ça finisse bien. Puis elle m'a dit, pourrais-tu écrire une histoire de cancer qui finit bien avec de l'amour à la fin? Elle avait rajouté ça. Puis elle a dit, ça donnerait de l'espoir. Puis ça m'a tellement touchée. Puis une des choses qui m'a le plus touchée, c'est qu'elle m'a pas demandé de raconter son histoire. Elle m'a demandé de raconter une histoire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une différence parce que, comme je vous dis, j'adore la fiction. Donc, elle voulait que j'invente une histoire pour qu'elle puisse se reconnaître dans sa réalité, mais qu'elle puisse aussi avoir de l'espoir. Donc, je trouvais ça vraiment beau.
Histoire d'un cancer qui finit bien, un extrait.
Je me souviens que, lorsque je sortais de l'hôpital pour revenir à la maison, je ne voulais plus de cette odeur. Je voulais qu'elle parte. Je voulais que ma mère asperge ma chambre de bon parfum qui sent bon. Du bon parfum qui sent bon. Mon préféré était à la lavande. Je voulais respirer la lavande partout, dans mon bain, dans mes draps, sur ma peau. Mes parents ont été extraordinaires. Je ne peux rien dire d'autre. Je dois admettre que je n'ai pas toujours été gentille avec ma mère ces dernières années. C'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas qu'elle me dise. Je ne voulais pas qu'elle me dise que je serais forte, ni que je viendrais à bout de la maladie. Le problème quand tu as le cancer, c'est que les gens te lancent un tel regard. Ils te regardent comme si tu allais mourir. Tu vois ta propre mort dans leurs yeux. C'est terrifiant. J'avais envie qu'on me parle comme à quelqu'un de normal, pas qu'on me prenne toujours en pitié ou qu'on me dise que j'étais une personne forte et que j'allais combattre la maladie. Je n'ai jamais perçu ce que je vivais comme un combat, puisque je n'avais aucune arme. Je subissais les événements en essayant de ne pas trop me plaindre. Je sais que les gens ne disent pas ces phrases pour mal faire. À la longue, j'ai donc fini par m'habituer à ces paroles qu'on croit rassurantes ou encourageantes. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on s'est condamné, sinon à mourir, du moins à subir des traitements qui sont carrément inhumains?
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Sur les paquets de cigarettes, fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides.
Stromae, hein, bien sûr, cancer, cancer. Avec lui, ben, ma foi, c'est un peu morose comme chanson, mais votre histoire à vous ne l'est pas, India Desjardins. Cette histoire de cancer qui finit bien, qui se retrouve sur le site de Livre Audio de Radio-Canada, lu par Sarah-Jeanne Labrosse. Et puis, il y a ce livre qu'on retrouve au SQLA, La mort d'une princesse. Merci beaucoup, India Desjardins.
Merci.
On est loin d'Aurélie Laflamme, mais Aurélie Laflamme est importante aussi dans, dans les foyers québécois.
Oui, c'est une différence. Histoire, mais j'aime ça justement m'inspirer de différentes choses pour écrire.
Merci d'avoir été Merci. Avec nous. On va se tourner vers une femme qui écrit beaucoup aussi. Elle aussi, elle a la plume dans le corps incrusté. C'est Louise Tremblay-Desciambre dont le tome 2, Histoire de femme, Félicité, vient de sortir simultanément sur papier et en audio. Je l'ai chopée, comme on dit. Je lui ai mis le grappin dessus dans les couloirs de Canal M un jour où elle est passée et ça a donné ceci. Bonjour Louise.
Bonjour.
Louise, vous devez être bien fière de voir tous ces livres qui sortent, et notamment le tome 2 d'Histoire de femme.
Eh oui.
Qui vient de sortir, alors qu'on peut lire, on le trouve sur papier, on peut aussi l'écouter, puisqu'il est sorti également en audio. Les femmes, Louise, comme disait Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Oh, probablement. L'homme est peut-être l'avenir de la femme aussi. Je crois qu'on est complémentaires. Mais de raconter l'histoire de ces femmes qui ont vécu avant nous me semblait important parce qu'elles ont pavé la route à ce que nous sommes aujourd'hui.
Quand vous dites qu'elles ont pavé la route, à quel niveau, Louise Tremblay-Desciambre?
À tous les niveaux. Au niveau familial, parce que ce sont vraiment les femmes au Québec qui ont tenu les familles à bout de bras pendant des décennies. Si les femmes n'avaient pas été là, je pense qu'on ne serait pas la société qu'on est aujourd'hui. Et aussi au niveau professionnel, parce qu'on se retrouve dans cette série chez une famille de bourgeois riches qui ont des domestiques. Mais quand on regarde Madame Éléonore, qui est la cuisinière, c'est une avant-gardiste malgré qu'elle respecte cette espèce de hiérarchie qui existe entre les gens d'en haut et les gens d'en bas. Elle est quand même une femme de carrière. Et elle prépare la jeune Marion qui lui a été confiée à l'âge de 13 ans parce que ses parents, elle, voulaient les gages. Et
Marion, elle vient, pour qu'on comprenne bien, de la famille Couturier, hein, c'est bien ça.
Oui, exactement.
Et là, on est dans la famille O'Gallagher, c'est bien ça?
En plein ça.
Bon, et puis il y a une troisième famille aussi dans le tome 2. On voit évoluer ces trois familles-là. C'est la famille de la France.
La famille de la France, on l'a connue dans une simple histoire d'amour.
Vous avez de la suite dans les idées, hein, Louise Tremblay-Desciambre?
Il le faut. Pour arriver à avancer dans les vies, il faut avoir un petit peu de suite dans les idées. Il y a surtout que les lectrices et les lecteurs aiment retrouver ces personnages. Et moi, comme lectrice, quand j'adopte un auteur, s'il a le culot ou la gentillesse de ramener quelques personnages que j'ai déjà aimés, pour moi, c'est comme retrouver un ami. Alors, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai toujours eu l'impression, quand j'écris, que ce sont les personnages qui me parlent, qui me racontent à l'oreille leur histoire. Alors, s'ils disparaissent de mon champ de vision, je ne saurai jamais ce qu'ils vont devenir. Alors, je suis contente de les voir revenir, puis là, ils continuent leur histoire. Et moi aussi, je prends plaisir à savoir ce qu'ils deviennent.
Félicité.
Oui.
Qui c'est?
Félicité, c'est, mon Dieu, elle vient de très loin. C'est une petite fille qui adorait la musique, qui a convaincu ses parents de l'envoyer étudier. Elle a fait l'école normale. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais à la fin des années 1800, elle a appris à devenir institutrice. Mais comme elle aimait la musique, elle a appris le piano. Quand elle est revenue à son village, on l'a engagée comme professeure de musique. C'est une célibataire. On apprend tranquillement au fil des tomes qu'elle avait une très bonne amie qui s'appelait Monique. Mais à l'époque, ça ne se vivait pas. Alors, elle a, plutôt que de créer scandale, elle s'est retirée dans son village. Elle a laissé Monique. C'est toujours le grand amour de sa vie, 60 ans plus tard. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'elle a adopté sa nièce, Marie-Thérèse, comme si elle était sa propre fille. Et elle a donné autour d'elle énormément. Alors, dans ce tome 2, on va fêter Félicité.
Et ça s'appelle Histoire de femme.
Oui.
Mais il y a des gars là-dedans. Par exemple, tout le monde se demande, j'ai vu ça à un moment donné sur un forum, qu'est-ce qui se passe avec Ovide?
Ah, vous allez le savoir en lisant le livre. J'irai pas vous le dire. On commence avec Ovide. Mais il faut dire aussi que Ovide, c'est le frère de Marion. Ce sont deux enfants qui viennent d'un milieu qu'on appellerait aujourd'hui dysfonctionnel. Les parents ont les enfants à les uns à la file des autres, un par année. Ce sont deux alcooliques, c'est une famille violente. Alors, ils ont eu la chance d'en sortir, mais on va voir au fil des pages que Marion est restée attachée au plus jeune. Alors, elle va essayer de s'en occuper à sa façon.
Lorsque je lis, encore une fois, les forums, ça m'intéresse toujours de voir ce que les lecteurs ont à dire de leurs auteurs préférés et des livres. Les gens disaient, il sort quand ce tome 2 ? Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, quand est-ce que le tome 2 d'Histoire de femme de Louise Tremblay-Décembre va sortir ? C'est incroyable, cet attachement-là, oui. C'est fantastique.
Bon, c'est ce que je visais finalement en écrivant. C'est d'apporter du bonheur aux gens, d'apporter des heures de détente, des heures d'oubli parfois. En tout cas, moi, dans mon cas, si j'ai un petit problème ou si je plonge dans un livre ou si je m'amuse avec les couleurs parce que c'est moi qui fais les pages couvertures de mes livres, je fais les toiles pour illustrer les livres, ça me permet de tout oublier, ça me permet de vivre autre chose.
Qu'est-ce que vous venez de dire, là?
Je fais les toiles qui illustrent mes livres.
C'est vous qui
oui.
faites... C'est... J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement chouette, tellement c'est... beau, coloré,
ben,
vivant.
Je suis chanceuse d'avoir une maison d'édition qui accepte mes gribouillis parce que j'ai pas de cours, j'ai pas de... Comme je dis, mon imagination, moi, elle passe par les mots. Alors, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Mais vous verrez, pour le tome 3, j'ai une amie qui est peintre. Elle gagne sa vie comme peintre, oui. Linda La Montagne, et elle m'a fait un croquis pour que je puisse m'en servir pour illustrer le tome 3. Et c'est ce que je m'en vais faire en fin de semaine. Là, je vais être dans mon atelier, ça va être du bonheur.
Il va y en avoir combien des tomes? De vous à moi, Louise Tremblay-Décembre.
4.
4?
Oui, je suis à écrire le 4.
Oh, allez, un petit cinquième.
Non. Il va en avoir 4. Je commence une autre série qui devrait... Là, le 3 nous arrive pour la fête des mères. Le 4 va nous arriver à la fin du mois d'août, à la rentrée littéraire. Et l'autre série devrait commencer au Salon de Montréal. Inutile de vous dire que je travaille tous les matins de 5h à midi, sans exception, 7 jours semaine. Mais bon, pour moi, c'est du plaisir. Alors, je me sens tellement privilégiée de vivre de ma plume, de ne pas être obligée de faire autre chose et de rester dans le confort de ma maison quand c'est l'hiver et que je déteste ça.
Louise Tremblay-Décembre, c'est toujours un plaisir de vous recevoir pour l'émission des livres plein les oreilles, mais aussi pour toutes ces plateformes qui vous diffusent, hein, que ce soit livre sur papier ou livre audio. Tous ceux qui veulent lire du Louise Tremblay-Décembre, que ce soit par les yeux ou par les oreilles, eh bien, toutes les avenues leur sont possibles et ouvertes. Merci. Oui.
C'est moi qui vous remercie pour tout ça, parce que si Vues et Voix n'étaient pas là, ben mes livres ne seraient que du papier.
Et il faudrait l'inventer. Merci beaucoup, Louise Tremblay-Décembre.
C'est moi qui vous remercie.
Elle est absolument charmante, cette femme, Louise Tremblay-Décembre. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission des livres plein les oreilles, animée par Clotilde Seille. En seconde partie, on va continuer de parler livres pour jeunesse. D'ailleurs, on ne va pas continuer, on va commencer parce qu'on n'a pas parlé de livres jeunesse avec India Desjardins. Je vais recevoir Caroline Chouinard ainsi que Hélène Gauthier. À tantôt. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie, on va retrouver avec un grand plaisir Hélène Gauthier du Service québécois du livre adapté qui va se faire un plaisir de nous partager quelques lectures adaptées. Il parut en audio récemment, mais juste avant, on va évoquer la ville fantôme de Québec, telle qu'imaginée par Caroline Chouinard et enregistrée en version sonore par Vues et Voix. Et comme une ville fantôme peut en cacher une autre, eh bien, on va commencer par celle de mes aïeux.
Le curé du village m'a fait un drôle d'aveu. Y a plus de flammes dans ses yeux. Les fidèles sont rendus trop vieux. Le curé sait plus trop s'y croit en Dieu. La belle du village ne croit plus en l'amour. Tous ses prétendants voulaient casser des habits. Son cœur volage est rendu trop lourd. La belle veut mourir vieille fille.
Le curé d'hôte l'église. se vit. La belle commence à faire virer. Le curé doute, l'église se vit. La belle commence à faire des rires. Le fou du village a plus le goût de rêver.
Il hurle à la lune à toutes les nuits.
On va être obligé de l'interdire.
Le fou n'a plus sa place ici.
Le maire du village a perdu sa fierté.
Il a vendu nos lacs, il a vendu nos champs
à des investisseurs étrangers.
Le maire est rendu à la.
Le curé doute, personne à messe. La belle veut plus jouer aux fesses. Le fou qui hurle sa détresse. Le maire est prêt à toutes les bassesses. Attention, la tempête gronde.
On achève d'écrire le premier.
Ouvrez vos yeux, tout le monde.
On est en train de bâtir une ville fantôme. Une ville fantôme. Une ville fantôme. Le doyen du village ne peut plus raconter. On l'a mis en prison dans un foyer. Une muselière sur notre passé. Le patriarche laisse doucement crever. La maîtresse du village n'endure plus les enfants. Ils sont dissipés, puis ils comprennent rien. Puis vu que les enfants sont plus comme avant, ben la maîtresse prescrit du Ritalin.
Une ville fantôme. Le curé doute et qui se vit. La belle commence à faire des rires. Le curé doute, personne à messe. La belle veut plus jouer aux fesses. Le fou qui hurle sa détresse. Le maire est prêt à toutes les bassesses. Le patriarche qu'on oublie. La maîtresse engourdit les petits. La tempête gronde, faites attention. On nous promet des jobs et puis des bonbons. Mais le problème est beaucoup plus profond. La défaite est devenue tradition.
Et qui dit tradition au Québec dit le groupe Mes Aïeux, et qui dit ville fantôme dit Caroline Chouinard, que je rejoins par téléphone parce qu'elle est à Québec. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Caroline, c'est à vous que l'on doit Jeux dangereux à Québec. C'est sorti en audio le 5 février dernier. Ça a été enregistré par nos soins ici à Vues et Voix. Alors on parle d'un livre qui est sorti chez Dominique et compagnie dans la collection Mini Frissons, car il s'agit bien de Mini Frissons.
Oui, hein? Oui.
Mais de gros aussi quand même, non? Mais je pas... Mini Frissons quand même, on va pas dans quelque chose... On s'entend, c'est pour les jeunes enfants, là.
Exactement. C'est vraiment écrit pour les jeunes, je dirais, troisième année à sixième année, donc 9 ans à 12 ans. Donc, oui, on veut donner des mini-frissons, mais pas les empêcher de dormir.
C'est ça. Mais du coup, ça ne doit pas être évident pour un auteur.
Bien, c'est certain qu'il y a des jeunes de cet âge-là. C'est drôle, je les présente souvent dans les écoles et il y a des jeunes qui adorent ce style-là et d'autres qui veulent rien savoir. Puis c'est correct, oui. Parce que moi-même, en partant, je suis pas une lectrice de livres d'horreur.
Non.
Et quand je leur dis horreur, là, il me semble que le mot est fort.
Est parce fort,
que
oui.
C'est des livres qui vont plus donner le frisson que d'être des livres d'horreur. Je fais une différence entre les deux.
Caroline Chouinard, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance un petit peu plus avec
oui.
vous. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Parce que ce n'est pas votre seule activité, ça, loin de là.
Moi, je suis massothérapeute aussi. Donc,
oui.
Je suis massothérapeute et auteur. Il y a déjà une dizaine d'années que j'écris, et c'est un peu par hasard que j'ai commencé à écrire. C'est que j'ai trois filles, dont des jumelles. Et une éditrice m'a appelée un jour parce qu'elle cherchait des parents de jumeaux pour écrire un livre, pour publier un livre avec différents témoignages de parents de jumeaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui écrire une vingtaine de pages sur comment s'était passée ma grossesse, mon accouchement et la vie avec nos jumelles. Mm-hmm. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai eu la piqûre, mais avant ça, j'avais vraiment pas écrit, moi, dans ma jeunesse. C'est pas mon parcours. J'ai découvert ça il y a 10 ans.
Parce que tous les auteurs le disent, ça prend une grande discipline hein, pour écrire. Alors, si vous avez un autre métier plus 3 enfants dont des jumelles, aïe aïe, mais vous êtes bionique, chère Caroline.
C'est une passion, oui. L'écriture. C'est vraiment une passion. Donc, le nombre d'heures, je compte pas le nombre d'heures que je peux passer à écrire. Et je fais beaucoup moins de massages qu'avant, il faut dire aussi, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire pratiquement à temps plein maintenant, l'écriture.
Alors, on va retrouver Justin et Alicia, si vous le voulez bien, dans les rues de Québec, qui devient ville fantôme. Parlez-nous un peu de cela.
Bien, moi, ce qui m'inspire quand j'écris mes histoires, cette série-là ou une autre, c'est souvent des lieux. Alors, pour cette série-là, justement, je suis allée visiter plusieurs lieux. Aussitôt que j'écris un nouveau mini-frisson, je vais visiter un endroit. Pour Jeux dangereux à Québec, bien, je suis allée faire la visite fantôme du Vieux-Québec. Genre, j'ai adoré.
Ça existe, ça?
Pardon?
Je dis ça existe,
oui,
ça.
Oui. Il y a un guide qui nous entraîne dans les rues et les ruelles de Québec et qui nous raconte des vieilles légendes. Il nous raconte des histoires de sorcières qui auraient existé à l'époque, des cimetières qui auraient été déplacés, des lieux qui seraient hantés. Alors, c'est vraiment passionnant comme visite. Je le recommande à tout le monde. Et c'est ce qui m'a inspirée pour l'écriture de Jeux dangereux à Québec.
Alors, ces deux enfants, au départ, ils ont... Bon, décider de mener un jeu un petit peu, bon, ben, sympathique, simplement, ils voulaient s'amuser à faire peur, c'est ça?
Exactement. Eux, ils habitent le Vieux-Québec et souvent, ils voient le guide avec différents groupes passer près de chez eux et ils aiment entendre les histoires du guide. Donc, souvent, ils vont suivre à distance le groupe sans se faire remarquer. Mais la visite se termine dans une église, la cathédrale de la Sainte-Trinité. Puis, il y a des histoires qui sont racontées à l'intérieur de l'église, mais eux, ils ont jamais réussi à entrer dans l'église avec le groupe. Et un soir, ils vont réussir à entrer sans que le guide le remarque, et ils vont pouvoir écouter les histoires, sauf que le groupe va ressortir de l'église avant qu'eux aient pu sortir de l'établissement, et là, il va se passer plein de choses que je garde.
Non, c'est ça. Et puis, moi aussi, d'ailleurs, je vais m'essayer, parce que je fais souvent des gaffes en ondes, alors je vais essayer de ne rien dire du tout.
Pas trop dévoiler, oui, c'est ça.
Non, c'est ça. C'est donc pas le premier livre que vous écrivez pour Dominique et compagnie, et pour la collection Mini Frisson, et à chaque fois, j'imagine, c'est dans une ville différente?
Pour les mini-frissons, le deuxième se passe à Trois-Rivières. Donc, c'est la vieille prison de Trois-Rivières que je suis allée visiter avant d'écrire. Et j'ai un troisième frisson parce qu'ils ont changé le nom. Ce ne sera plus des mini-frissons, mais des frissons. Ça va être un autre endroit. Je pense que je peux le dévoiler. Puis, il sort bientôt. C'est la grosse île, en fait. Les jeunes vont se retrouver sur la grosse île.
Sur la grosse île. Bon, alors là, ça manque à ma culture.
Ah, la grosse île, c'est l'île de la quarantaine. C'est là que les immigrants irlandais arrêtaient pendant une quarantaine de jours pour être sûrs qu'ils n'étaient pas malades et ensuite ils s'en venaient à Québec à l'époque.
Ah, ce qu'on appelait donc la quarantaine, c'est pour ça qu'on
l'île de la quarantaine aussi, oui.
OK. Oui. Elle est située où? Excusez mon inculture parce que...
Fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis à peu près Montmagny.
Ah, d'accord.
En Chaudière-Appalaches.
Ah, très bien. Eh bien, écoutez, j'ai quand même pas mal voyagé. On pourrait penser qu'avec mon accent, mais non, c'est pas vrai. Je connais même la province de Québec et j'en suis très fière, parfois plus que les Québécois, mais je ne connaissais pas l'île de la quarantaine, alors je vous remercie beaucoup.
Ben, c'est drôle parce que moi, je viens de ce coin-là et j'étais jamais allée la visiter avant de le faire il y a 2 étés, je crois, pour écrire ce livre-là.
Ouh,
donc,
ça doit être propice à du frisson, ça. Même pas du mini, à du vrai frisson. Permettez qu'on écoute un petit extrait
bien sûr.
Écoutez, ce que je regrette un petit peu, c'est que l'extrait qu'on nous propose ne se passe pas à ce moment-là, au moment des jeux dangereux, mais je pense qu'on est juste un petit peu avant ça. Mais au moins, ça va donner une bonne idée de la lecture de ce livre « Jeux dangereux » de Caroline Chouinard.
Merci.
Je regarderai ce message plus tard. Je ne peux pas arrêter ma partie maintenant. Mais alors que je m'apprête à achever mon ennemi, une main froide agrippe mon mollet. Ah! J'étais si concentré sur le téléviseur que je n'ai pas entendu ma mère arriver. Malheureusement, mon adversaire a profité de cet instant d'inattention pour porter un coup fatal à mon avatar, qui gît maintenant sur le sol, sans vie. « Mom, c'est pas cool, ça! »« Justin, combien de fois t'ai-je dit de baisser le son? »
La voisine va finir par venir se plaindre.
« Il n'y a aucune chance, elle est sourde comme un pot. Tu peux rester poli, s'il te plaît? » Je lève les yeux au ciel. Ma mère ne veut pas l'avouer, mais elle sait que j'ai raison. Même le bruit de son détecteur de fumée n'a pas réveillé la voisine la semaine dernière lorsque son petit-fils a fait brûler une rôtie dans le grille-pain. « Tu m'aides à préparer le souper? » me demande-t-elle. « Je te rappelle que je suis en vacances depuis à peine 60 minutes. L'année scolaire vient peut-être de se terminer, mais ça ne met pas fin à tes tâches ménagères. » Je ronchonne pour la forme, car je me doute que mes protestations ne serviront à rien.
Lorsque ma mère a décidé quelque chose, c'est bien difficile de la faire changer d'idée.
Avant de me rendre à la cuisine, je jette un coup d'œil à mon iPod. « Ali, rendez-vous Place Royale, 18h. » Je vérifie l'heure. « Wow, c'est dans 30 minutes. J'en perds une de plus à lui répondre. » Justin, je mange et je te rejoins.
Caroline, on avait peur de vous avoir perdu, mais je ne vous aurais pas laissé partir comme ça sans vous avoir dit au revoir. Ça vous fait drôle sûrement de vous entendre comme
ça. Oui, j'avais tellement hâte d'entendre le livre audio. Oui, ça fait vraiment étrange d'entendre notre histoire, mais waouh, c'est génial, j'aime vraiment.
Bon, ben tant mieux, Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission des livres pleins les oreilles. Je rappelle votre nom, Caroline Chouinard, et ce livre « Jeux dangereux à Québec ». Maintenant disponible en audio sur le site livresonore.vusevoix.com. Merci, au revoir, Caroline.
Merci beaucoup, bonne journée.
Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants, ils vont m'entendre. Je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent. Un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval puis j'attellerai les chevaux du vent, puis nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie, si les océans sont toujours vivants. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre. Par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant pour le détruire. Bombe de silence et couteau d'argent. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un soleil rouge, un soleil blanc, un soleil sombre. Nous mettrons le mal à feu et à sang, un nuage monte, un autre descend. Un jour sans ombre, puis nous raserons la ville en passant. Reviendront le cœur triomphant, un côté rouge, un côté blanc, un côté homme. Quand nous reviendrons le cœur triomphant, alors vous direz ce sont nos enfants. Quel est cet homme qui les a menés loin de leurs parents? Je remonterai sur mon cerf-volant, Un matin rouge, un matin blanc, je remonterai sur mon cerf-volant. Un matin rouge, un matin blanc, un matin blême, je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés de même pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps.
Au départ, la chanson est géniale, cette chanson de Gilles Vigneault, Le cerf-volant, mais quand c'est repris par Fred Pellerin, qui lui aussi est un interprète absolument génial, je pense que vous avez un petit problème de... Mais je vais vous aider, Hélène, il n'y a pas de problème. Alors, vous inquiétez pas. Donc, je disais que c'est vraiment absolument génial. Je me suis tournée vers Hélène, une revenante, partie après un long, long voyage.
Bonjour.
Tellement contente, Hélène, de vous retrouver en studio. Je rappelle que vous êtes bibliothécaire au SQLA et je vais vous montrer le bouton pour pouvoir faire en sorte que vous... Non, mais regardez, ici, c'est très familial. Alors, je vais... Ben oui, je comprends. Hop là!
Ça fonctionne.
Voilà. Et là, vous avez du sang. Chère Hélène, après ce grand voyage qui vous a amené dans des pays orientaux,
oui,
dont les noms font rêver, vous arrivez avec des titres qui vont nous faire rêver aussi, peut-être.
C'est ce que j'essaie de faire, effectivement.
Je vous laisse aller,
ben,
moi,
oui,
là.
Ben, on commence à la maison. On commence avec « Ce qui se passe dehors » de Catherine Dorion.
Dont on parle tant.
Ben, j'allais dire, c'est un nom qu'on va reconnaître. Donc, c'est un roman jeunesse. Donc, Catherine Dorion est maintenant connue comme étant une personnalité politique. On a tous vu passer son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale se promener sur les...
Et on connaît ses tucs et c'est génial. Voilà.
Et ses t-shirts ça s'est promené sur les médias sociaux. Mais avant d'être... politicienne, elle est écrivaine, donc elle a écrit des contes, des essais, des pièces de théâtre, des articles, mais là c'est son premier roman jeunesse qui se base beaucoup dans ses intérêts. Donc ça parle de Gabrielle, une adolescente assez sérieuse qui vit à Québec et elle est dans le Vieux-Québec, il y a une manifestation qui se passe et elle convainc son amie de venir avec elle pour voir ce qui se passe dans cette manifestation-là. Elle se fait donner un petit tract, un dépliant, par un jeune homme qu'elle trouve bien de son goût. Et ce tract-là l'attire dans une rencontre au cégep d'un comité d'action politique. Des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé auparavant. Et donc, à partir de ce moment-là, sa vie prend une autre direction. Elle s'intéresse à l'actualité, aux enjeux de société, à l'engagement social. Et là, le livre discute de cette découverte qu'elle fait. Donc, c'est une narration à deux voix entre elle et Émile, le jeune homme qui lui passe le tract, qui lui est déjà engagé politiquement. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que les adolescentes sont de plus en plus actives politiquement de nos jours et c'est au courant de l'actualité. Donc, ce titre-là correspond bien aux idées défendues par Catherine Dorion.
Ouais.
On pourrait trouver des fois que c'est des thèmes, bon, surtout quand c'est abordé par quelqu'un qui est en politique, c'est un peu lourd, c'est un peu forcé, mais elle écrit très bien, elle a une bonne plume, puis ses personnages sont crédibles, puis vraiment, elle est capable de trouver un langage qui correspond au langage des adolescents.
Ce qui nous prouve bien qu'on pourra enlever Catherine Dorion de la politique, mais on ne pourra jamais enlever la politique de Catherine Dorion.
Oh, parce ben
que
non, hein, c'était
non,
déjà
non,
là.
Mais c'est vraiment dans ses gènes.
Absolument.
Hein,
bon.
Alors, ce qui se passe dehors de Catherine Dorion. Un autre?
Ensuite, on reste encore, mais Tempêtes intérieures de Vanessa Beaulieu. Donc, on est encore plus proche, on est intérieur. Donc, ça parle de maladie mentale. C'est pas un roman, c'est un documentaire. Donc, sur la maladie mentale, qui est souvent un tabou dans la société, on n'en parle pas. C'est des choses qu'on vit seules. C'est considéré comme étant une faiblesse chez les gens. Donc, ce livre, c'est un recueil qui rassemble des mots d'hommes et de femmes connus
qui ont souffert de problèmes de santé mentale, puis ont choisi de partager leur expérience. Donc, c'est fait sous le format d'entrevue entre Vanessa Beaulieu, l'auteur du livre, et les personnes à qui elle parle de leur expérience. Et là, on parle de maladie mentale, mais on parle pas seulement... Bon, il y a des gens qui parlent de troubles bipolaires, de psychose, de choses plus intenses, mais aussi des choses que les gens peuvent vivre dans la vie de tous les jours. Donc, l'échec, l'isolement, l'anxiété.
L'image.
Les troubles avec la perception de soi, de son physique. Donc, on a par exemple Biz, le rappeur, qui lui parle de dépression postpartum vécue au masculin, vécue par un père. Chose qu'on ne parlerait pas
rarement, en tout cas, oui, c'est vrai.
Donc, on a plusieurs personnalités connues. On trouve Ingrid Falaise, Patrice Godin, Manon Massé, Marianne Saint-Gelais, plusieurs autres. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui pouvait démystifier, déstigmatiser la maladie mentale, peut aider à développer notre empathie aussi. Quand on entend quelqu'un parler de son expérience, on porte peut-être moins de jugement, puis aussi peut accompagner les gens qui peuvent traverser des moments plus difficiles.
Et je voudrais vous préciser que ce livre-là, qui a été écrit par Vanessa Beaulieu, bon, elle, au départ, est une femme qui a connu la dépression totalement désespérante et celle dont on ne veut pas parler justement comme d'une maladie mentale. Je vous propose d'entendre un extrait de l'introduction de ce livre. Alors, on comprend bien pourquoi cette jeune Vanessa Beaulieu a eu envie de réunir toutes ces personnalités-là pour démystifier la dépression.
Dans notre société occidentale favorisant la perfection, l'accomplissement de soi et la réussite, je me suis essoufflée. J'avais un trop-plein de « je dois être parfaite ». J'essayais d'être la meilleure à l'école, dans ma troupe de danse, comme saxophoniste. Devant un échec, j'étais démolie. Le problème, c'est que je ne suis pas parfaite, ni aucun d'entre nous. J'ai eu mon premier contact avec la maladie mentale à l'âge de 19 ans. J'ai dû identifier le corps de mon frère de 17 ans, décédé d'un grave accident de voiture. Le drap, qui s'était déplacé durant les manipulations, a laissé voir les vestiges des soins qu'il avait reçus. Son visage blême, sans vie, m'est resté en tête longtemps et envahissait constamment mes pensées. J'en ai fait des cauchemars. Quelques mois après, j'ai reçu un diagnostic de stress post-traumatique. 2 ans plus tard, mon papa a fait un AVC. Nous avons dû produire un mandat d'inaptitude en moins de 2 heures avec l'équipe de l'hôpital. Je suis devenue responsable de lui cette nuit-là. À 21 ans, je devais m'occuper d'un adulte tout en travaillant 35 heures par semaine, en plus de mes études universitaires à temps plein. J'ai fait un burn-out quelques mois plus tard.
Oui, il y a de quoi tomber à terre, hein? Quand
absolument.
Il vous arrive tout ça.
Oui,
c'est...
mais ça arrive à plein de gens aussi.
Oui.
Oui.
Et même souvent, ça arrive sans raison, parce que là, il y a des raisons fondamentales de tomber.
Oui.
Mais parfois, c'est tellement chimique, c'est tellement à l'intérieur.
Exactement, oui.
C'est
on
pas
parle
pour
de,
rien.
Oui, de médicamenter aussi, il y a un tabou
c'est
là-dessus.
C'est pas pour rien
des
qu'on
fois,
donne
nécessaire.
À ce moment-là de la chimie, c'est pour rebalancer tout ce qui déconne.
Le cerveau qui fonctionne pas, mais oui.
Disons-le comme c'est là. On a le temps pour un autre livre. De
oui.
quoi voudriez-vous nous parler,
de
Hélène?
De Séquoia de Michel Moutot. Donc là, je vous amène en voyage. Donc Michel Moutot est un auteur français. Il est reporter à l'Agence France Presse. Il a été correspondant à New York en 2001 et il a reçu un prix pour sa couverture des attentats du 11 septembre. Donc, quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Donc, Séquoia, c'est un roman d'aventure. Ça se passe au milieu du 19e siècle. C'est un groupe de frères qui vivent à Nantucket, donc au Massachusetts, aux États-Unis. Et il y a l'appel de l'or qui vient de la Californie, donc la ruée vers l'or. Et ils décident de se lancer. Donc, en Nouvelle-Angleterre, c'était des chasseurs de baleines. Ils embarquent sur leur bateau et ils font le tour, hein, parce que s'il n'y a pas le train pour les amener en Californie, on fait le tour par en bas, là. Donc, on descend, on passe le Brésil, on passe le Cap, toute l'Amérique du Sud, et là, on les suit dans cette aventure dans de multiples pays. Ils arrivent à San Francisco. Et ben, y a déjà plein de gens hein, qui se sont là pour la ruée vers l'or. Donc, c'est peut-être plus que de plus rentable. Donc, ils se lancent dans la coupure des séquoias, donc le bois. ils décident de se lancer là-dedans. Donc, on suit leur aventure. C'est des descriptions qui sont très, très, très colorées. Comme je l'ai mentionné, on se promène du Brésil à Cuba, à l'Alaska. Il y a beaucoup d'aventures. C'est très touffu. Je l'ai devant moi. C'est à peu près 500 pages. Donc, ça nous embarque dans toutes sortes d'aventures.
Merci beaucoup, Hélène.
Mais ça fait plaisir.
Excusez-moi de rire, mais de l'autre côté, là, il y en avait un.
Moi, je manque tout. Hein?
Non, mais là, vous avez tout manqué. C'est parce que j'ai un petit jeune qui débute. Il a seulement 62 ans, petit loup. Il a encore jamais fait de radio. Il est de l'autre côté. Et là, il était tout rouge. Il était tout perdu dans son temps. Alors, je pense vraiment, c'était évidemment pas de vous dont je souriais. Hélène Gauthier, rappelons que vous êtes bibliothécaire au service québécois du livre adapté. Rappelons aussi que Mes tempêtes intérieures, c'est une production Vues et Voix. Donc ça se retrouve en format adapté ou SQLA, mais ça se retrouve également en version commerciale sur notre site livresonore.vuesetvoies.com. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et on aime ça. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission des livres plein les oreilles, animée pour vous encore cette semaine par Clotilde Seil. Je voudrais remercier les personnes qui se sont jointes à moi aujourd'hui. Je pense à India Desjardins, à Caroline Chouinard, à Louise Tremblay-Desciambre et à l'instant à Hélène Gauthier. Merci à Jean-Sébastien Laliberté et Jean-François Roy. Ben oui, ils s'y sont mis à deux aujourd'hui pour faire cet excellent travail. Alors bonne lecture à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour une autre émission de Des livres pleins les oreilles. Salut!